1981 fut la première occidentale à approcher les Bataks et les Dayaks, peuples cannibales et coupeurs de têtes de Bornéo et Sumatra. À ce soir, 21h.
France Inter.
La différence.
Il est 15h04 dans une petite poignée de secondes. C'est l'heure de la basse, j'y suis avec Daniel Mermet.
Bonjour Daniel, c'est Gaëlle de Bourgogne. On est à Paris pour manifester. Je te donne un peu le bruit d'ambiance. On manifeste tous contre la nouvelle réforme. Allez, à plus. Salut.
Voilà, je suis enceinte de 7 mois et j'habite près de Figeac dans le Lot, à 20 minutes. Figeac, c'est une ville entre 10 et 15 000 habitants qui a perdu sa maternité il y a 2 ans. Alors pour mon accouchement, j'ai le choix d'aller à la maternité de Villefranche de Rouergue, de Cahors ou de Decazeville, qui sont à peu près 3 localités à 1 heure de route sinueuse. Donc aujourd'hui, où les sages-femmes manifestaient et où des bruits courent sur l'éventuelle grossesse de Carla Bruni-Sarkozy, je me demandais où elle allait bien pouvoir accoucher. Antony, Villejuif ou Bondy? C'est à peu près à 1 heure de l'Elysée, non? Ça devrait aller.
Au revoir.
Le Conseil national de la Résistance avait défini le fonctionnement de nos services publics et entreprises publiques. Une contribution calculée selon nos moyens, une prestation déterminée par nos besoins, couplée à une péréquation tarifaire et des tarifs administrés pour s'orienter vers des choix collectifs et des biens communs. Régis de Nîmes.
Bonjour, c'est Françoise de Limoges. J'ai envie de dire bravo à tous les médias qui sont en train de taper sur DSK et sur la gauche. Il faut croire qu'ils sont payés pour faire revenir Sarkozy ou Marine Le Pen au pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est que ces ouvriers qui votent à droite et à l'extrême droite? Mais c'est des connards ou quoi? J'ai une colère, j'ai l'impression d'avoir affaire à des gogos, à des pauvres gens, des pauvres gens. Je me demande ce qu'ils ont vécu dans la vie, mais pas grand-chose. Voilà, continue Daniel Mermet, mais ne tape pas sur DSK s'il te plaît. DSK, c'est une voiture qui ne lui appartenait pas. Ok? Ciao.
Eh bien oui, par le télérépondeur d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez vraiment envie que Sarkozy repasse? Pourquoi défendre comme ça DSK? C'est le seul représentant de la gauche qui a une chance de passer. Et aussitôt, mais je sais pas, j'ai l'impression vraiment que des bourrins, des bourrins, même sur France Inter, c'est terrible. Vous faites tout pour ce que Sarko repasse. Incroyable.
Salut à tous, c'est Pascal Dumont. Bien décidément, vos émissions me confortent dans mon opinion. Si notre cher Dominique Sarko-Strauss-Kahn devait se présenter et être le candidat socialiste, entre guillemets, retenu pour la présidentielle, eh bien, même si je suis de tempérament gauchisant, je voterai pour son adversaire, car quitte à se faire enculer, autant que ce soit par des personnes qui vous préviennent avant. Salut à tous, bonne journée.
Bonjour, Jacqueline Vivier, Pont-à-Mousson. Voilà, je voulais juste vous dire que j'étais issue d'un milieu ouvrier socialo-communiste entre père et oncle, cheminot et mineur. Je n'ai aucune passion pour Dominique Strauss-Kahn. Je voulais simplement savoir par qui l'opération désingage avait été financée, Front National ou UMP. Merci.
Bonjour, c'est Laurence de la Roque d'Anteron. Je vous remercie à tous pour vos émissions, surtout celle de DSK. Hein. Voilà, moi, j'ai voté Chirac pour sauver la France de... du Front National, mais je vous prie de croire que je ne voterai pas DSK pour sauver la France du Front National. Non, maintenant, ça suffit. J'ai donné une fois, je ne donnerai pas deux. DSK, c'est un bonhomme que les médias veulent mettre en place, et moi, je ne suis pas d'accord, jamais de la vie. Hein. Il peut passer le Front National, je m'en tape complètement. J'en ai vraiment ras-le-bol. Les pouilleux de mon espèce ont qu'à se bouger un peu. Hein. La basse classe ne vote pas. Moi, je vois des gens autour de moi qui ne se dérangent même pas pour voter. Eh bien, tant pis pour eux. On ne nous en fait pas encore assez. Voilà, moi, je voterai Mélenchon. Allez, je vous embrasse. Gros bisous.
Oh, quel bonheur. Moi qui avais mal au cervical, je suis détendue. Après le réquisitoire de Mordillard, j'en ai rêvé. Moi qui vivais dans une banlieue de l'Essonne. une cité particulièrement remuante. Je disais toujours, mais mettons-les là-dedans. Enfermons-les comme ils nous ont enfermés. Donnons-leur nos salaires, notre vie. Oh, merci Gérard Mordillat. Merci Daniel Mermet. Il y a des moments dans la vie où on paierait pour écouter ça toute la journée. Et Dieu sait si ma retraite n'est pas à la hauteur de mes demandes là, financières. Merci, merci, merci. Au revoir.
Merci, merci, merci pour ces messages. Vous avez compris, ça a tangué pas mal dans la boîte vocale de la Basse et J'y suis, suite aux deux émissions que nous vous avons présentées, le procès de DSK. Vous pouvez réécouter sur labas.org, la-bas.org, ces deux volets. Mais ça en dit long quand même, hein, vous avez entendu, vu aussi. voilà, les réactions, vos réactions. Aujourd'hui, là-bas fait des petits, là-bas fait des petits. Chaque année, depuis quelques années, avec Antoine Chao, nous animons tous les deux une formation au grand reportage, au documentaire radiophonique à l'école de Lille, l'école supérieure de journalisme de Lille. Et chaque année, on vous fait entendre et partager les travaux et les reportages des élèves, des étudiants de cette école qui vont se consacrer au métier de la radio, du journalisme radiophonique et aussi, bien sûr, du reportage, du grand reportage radiophonique. Chaque année, c'est une effervescence. On est très heureux de faire ça. Et là, on va entendre trois reportage de ces étudiants, l'un sur les jeunes Tunisiens, et ces jeunes Tunisiens complètement échoués, véritablement, à Paris. Un autre sujet sur ce qu'on appelle, entre guillemets, les punks à chiens. Vous savez, les punks à chiens, ces gens que vous voyez, comme un peu errants, un peu avachis, entre guillemets, avec leurs chiens, leurs bières. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? D'où viennent-ils? Et puis, un troisième sujet, sur les supporters. On devrait dire un supporter de Lens. C'est pas n'importe où Lens, hein. Et ce supporter-là n'est pas n'importe qui. Voilà nos trois sujets du jour. Donc là-bas fait des petits. Je vous rappelle que ce week-end, samedi et dimanche, c'est le Forum des Résistances aux Glières, sur le plateau des Glières, dimanche matin à 10h30. Et samedi, toute la journée, à Torrent-Glières, en contrebas. Ça s'écrit Torrens-Glières, mais ça se prononce Torrent-Glières. C'est à 20 minutes, une demi-heure d'Annecy. Toute la journée, il y a des débats, des rencontres, notamment avec Stéphane Hessel à 15h, avec d'autres résistants, des débats de toutes sortes. Vous retrouverez encore Frédéric Lordon, François Ruffin, Charles Piaget, par exemple, qui sera là à 13h30, Xavier Mathieu et bien d'autres. Quant à nous, là-bas, si j'y suis, nous serons à partir de 19h30 à Torrens-Glières avec Radia Nasraoui, notre amie tunisienne, résistante, militante tunisienne, à qui un hommage sera rendu. Et ce sera le repère des repères. Les repères de là-bas, si j'y suis, vont se retrouver. On aura des invités, on aura de la musique, il y aura à boire et à manger. Donc, à partir de 19h30, à Torrent-Glières samedi. Et puis dimanche, bien sûr, nous participerons à la commémoration, disons, sur ces paroles de résistance sur le plateau des Glières. La météo est moyenne, donc ceux qui ont envie de venir, je sais qu'ils sont très nombreux, eh ben, surveillez bien la météo. Voilà, les petits que nous avons faits, derrière la commode de là-bas. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Aujourd'hui, 7 février 2012, bienvenue sur TF1, c'est le journal présenté par Jean-Pierre Pierrot. Alors, pour vous annoncer que ce matin, le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, ira chercher sa femme à la maternité qui vient de mettre au monde le petit Charles-Henri. Et puis, tout de suite après, il ira au Bourget accueillir les deux otages qu'il a réussi à faire libérer. Et quand on pense qu'il y a simplement une semaine, il était à 7% de satisfait dans les sondages, le voilà aujourd'hui remonté à 53%, et ce qui nous promet une belle bataille pour les présidentielles. Écoutez, maintenant nous partons en reportage au fin fond de l'Auvergne pour la recette de la soupe aux choux. Merci à vous tous.
Bonjour, lundi 16 mai à 20h au cinéma Le Coluche à Istres. Soirée de solidarité avec le peuple palestinien autour du film de Gazastrophe, le jour d'après, de Samir Abdallah et Kheireddine Mabrouk. Au profit d'un bateau français pour Gaza qui partira de Marseille en juin. Le film sera précédé d'un buffet. Un débat suivra. Cette soirée est organisée avec le collectif 13, la LDH Istres-Ouest-Provence, le Mouvement pour la paix, le NPA et la CGT locale. Pour information, la Ligue des droits de l'homme, section Istres-Ouest-Provence, sera le 14 et 15 mai au plateau des Glières. Merci.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao, là-bas, fais des petits.
Flight number 2, arriving from New York.
Voilà, ce que vous venez d'entendre là, c'est de la radio. C'est du son, un véhicule qui passe, on est dans une rue, on est quelque part... On sait pas, chacun voit une rue là en ce moment, chacun pense à une rue, chacun des 400 ou 500 000 que vous êtes est en train de voir une rue, et ces 500 000 ou 400 000 rues différentes, c'est le génie de la radio que d'engendrer des images, créer des images, chacun créant sa propre image, on s'en émerveille tous les jours et puis on en vit. Or cette expression radiophonique, c'est peu à peu été oublié, maltraité, formaté, sauf quand même à Radio France. Ce week-end, on va rendre hommage à la résistance d'hier et d'aujourd'hui. Ben, dans ce domaine-là, Radio France a fait et fait de la résistance. On écoute encore de la radio à Radio France, que ce soit sur France Culture, que ce soit sur France Inter, sur les autres radios. On écoute de la radio, c'est-à-dire des sons en un certain ordre assemblés, c'est-à-dire qu'on prend des bruits, on en fait des sons, et puis on prend des sons, on les taille plus ou moins, et on leur donne un sens. C'est notre boulot. Ce discours-là, ces façons-là, cette expression-là, il y a quelques années, on n'en donnait pas très cher, c'était, oui, un monde un petit peu en régression, avec un déclin, avec la montée d'autres moyens d'expression. Puis on s'aperçoit que, non, ça marche. De plus en plus de jeunes, des étudiants, des jeunes journalistes maîtrisent et entendent, maîtriser, veulent s'aventurer sur ce domaine d'expression. Il y a un site, par exemple, Arte Radio, que je vous recommande, qui est excellent. C'est pas de la radio de flux, comme la nôtre, mais c'est des objets sonores qui sont très beaux. Il y a beaucoup d'émissions sur France Culture, sur Inter. Et les nouveaux moyens, les Internet, les logiciels qui sont à la portée de chacun aujourd'hui, permettent d'accéder vite, assez rapidement, disons assez vite, à la maîtrise du montage, du mixage, et sans parler évidemment de la prise de son. Tout ça fait que ce moyen d'expression qu'est la radio et l'usage des sons, eh bien, connaissent un regain d'intérêt, et notamment dans les écoles de journalisme, en tout cas dans cette école de Lille, l'école supérieure de journalisme, où nous allons chaque année avec grand plaisir, avec Antoine Chao, rencontrer et initier nos jeunes confrères à cet art subtil et populaire qu'est la radio telle qu'on l'a fait à la base, si j'y suis. Donc aujourd'hui, trois sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. On va commencer par le premier, ces jeunes Tunisiens qui veulent travailler en France. Vous avez suivi leur odyssée, comment ils ont été, ils ont traversé la Méditerranée, Lampedusa, la traversée de l'Italie, le blocage à Vintimille, et comment ils se retrouvent aujourd'hui échoué à Paris, pas très bien accueilli, c'est moins qu'on puisse dire. On n'aime pas trop cette histoire, elle est ennuyeuse pour tout le monde, pour Schengen, ça pose des tas de problèmes. Qui sont ces jeunes Tunisiens? D'où viennent-ils? De quoi rêvent-ils? C'est le reportage de Gaylor Van Wimersch.
En Tunisie, lorsqu'on parle de la France, c'est la paradis. On attend de travailler ici. Mais lorsqu'on est arrivé ici, tout le monde dormait dans les gares, dans les jardins. Je vois la France. Ils nous disent que c'est la paradis. C'est l'enfer.
C'est l'enfer, tu dis?
Oui, c'est la merde, vraiment. Il n'y a rien. J'ai trouvé un travail minimum. J'ai trouvé rien.
Tu pensais qu'il y avait du travail?
Ouais. Tout le monde pense qu'il y a travail ici, il y a des bons salaires, il n'y a rien. Je m'appelle Abdel Fattah, je suis tunisien. J'habite à la ville de Mednine, c'est au sud de Tunisie, 50 km de Djerba, près de la frontière libyenne. Moi, je suis étudiant, cycle préparatoire pour les écoles d'ingénieurs.
Tu es arrivé il y a combien de temps ici?
À Paris, presque 2 mois. Je suis parti après que Ben Ali est parti. Oui, parti à l'Arabie Saoudite, moi je suis parti à la France.
Tu m'as dit j'ai pris la décision d'un coup de partir, mais ça t'a coûté de l'argent, j'imagine, pour organiser le voyage. T'en as parlé à tes parents, à ta famille, comment ça s'est passé?
Deux cousins de la famille qui ont aidé pour que je puisse payer les 1500 dinars.
Ça fait combien en euros?
En euros, c'est, je pense que c'est 800 euros.
800 euros?
Oui, c'est pour les départs, mais après, on a payé encore. Moi, j'ai de la chance. Il y a des gens qui ont, presque tout le monde, ils ont payé presque 1000 euros au départ. Mais moi, je connais qui est responsable de tous les immigrants.
Un passeur?
Oui. Je connais qui conduit les bateaux. On a rassemblé à Zerzis, c'est 70 km de Mednine. Et on attend que le météo se calme un peu, parce qu'il y a des vents, il y a quand on est parti, presque minuit, on a...
Il était comment ce bateau? Vous étiez combien?
On était 150, il était trop petit. Oui, le moteur est très faible. Il a tombé des fois en pan pendant le voyage. On a vu la mort, vraiment.
Vous avez vu la mort?
Oui. Il n'y a rien. Que laisser aller la mort. Nous prier, nous lire le Coran. Chacun fait ce qu'il peut.
Toi, t'as eu peur?
Oui. Très peur. Comme tout le monde.
La traversée, ça a duré combien de temps?
22 heures. Presque 22 heures. Lorsqu'on est arrivé à Lampedusa, le Croix Rouge nous accueillir. On a resté 10 jours à Lampedusa. Puis on a parti à Bari. On a resté 2 jours, 3 jours. Ils nous donnent un badge, comme les cartes nationales, je pense.
Alors qu'est-ce que tu as fait à partir de Bari? T'es allé où?
Chacun prend sa direction. On a échappé de la résidence.
Ah, parce que vous êtes parti de la résidence?
Oui, oui, on a échappé. On a sauté le guillage, on est parti. Comme ça, oui. On a marché presque 10 km sur nos pieds pour arriver au centre de ville, pour prendre les bus. Puis on a pris le train entre l'Italie et la France pour passer la frontière jusqu'à arriver à Nice. Puis on a pris les TGV, Marseille, Lyon, jusqu'à Paris.
Et là tu dors où?
Près de... Le train, c'est...
Sur la voie ferrée?
Ouais.
On peut y aller ensemble? Tu peux me montrer?
D'accord. Je pense que c'est un peu loin.
On va marcher comme ça va nous réchauffer.
Ouais.
Donc là, on est sur une voie ferrée, désaffectée, oui. Au-dessus du square.
On dort ici, là, dans la boutique. Il y a... comme un lit.
Des matelas.
Oui. On les jette ici, on dort ici. Hein. Mais ça, c'est notre place.
Ça, c'est votre place.
Ouais.
Là, il y a un matelas avec des couvertures,
oui, c'est...
des vieilles couvertures.
Oui, de la poubelle. Hein. On ne peut pas acheter des nouveaux. Hein. Ils sont tous de la poubelle.
Tout ça, ça vient des poubelles.
Oui, malheureusement.
Vous êtes combien à dormir ici?
Une nuit, 10 personnes. Une nuit, 2 personnes. Une nuit. C'est ici qu'on dormit.
Et par rapport à la Tunisie, tu...
On ne peut pas comparer. En Tunisie, j'ai dormi dans ma chambre sur ma lit. Je suis chauffé, mais tu vois ici. Hein. Matelas dans près des quais de train, dans le froid, mais il n'y a que le ciel et la terre. C'est trop difficile. Hein.
Et ta famille, t'as des nouvelles? Elle est inquiète pour toi?
Non, je l'ai téléphoné. Je lui ai dit, je suis très bien. J'habite dans un chambre meublée. J'ai menti pour qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi. Je ne peux pas dire la vérité parce qu'ils les inquiètent. Ils... J'aime pas que mes parents s'inquiètent pour moi. C'est ça. Je suis très très déçu vraiment. Et dans cette période, ils ont renforcé le contrôle. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur Sarkozy cherche les voix du Front National, donc il utilise les immigrants pour avoir les voix du Front National, seulement ça. Et dans le même temps, nous espérons que l'État français nous respecte un peu. Inch'Allah. Inch'Allah.
Que le peuple tunisien soit assuré que le peuple français est solidaire de lui, et c'est dans cet esprit que j'ai demandé à François Fillon et au gouvernement de préparer un certain nombre de mesures qui seront proposées aux autorités tunisiennes pour leur apporter le soutien de la France dans les circonstances exceptionnelles qu'elles ont à affronter et dans l'urgence à laquelle elles ont à faire face, en particulier sur le plan économique.
Il est 20h14, on est à la sortie du métro Aubervilliers-Pantin 4 chemins et il y a 9 cars de CRS qui sont stationnés et qui partent à l'instant. On va voir ça, ils prennent à gauche, ouais. Vers... le parc, où sont entassés ces Tunisiens qu'on a vus ce matin. Voilà, bah, on va faire comment, on va les suivre. Mais nous, à pied.
Au métro, un peu partout.
Ils vont intervenir quoi, dans les jardins?
Donc a priori, il y a une intervention policière qui se prépare.
Et qu'est-ce qu'il faut faire là?
Ben, je sais pas. Alors, soit il y a une dispersion très rapide pour éviter une rafle massive, mais il paraît qu'il y a des flics au métro, il y a des flics un peu partout.
Augustin Legrand, avec ses 2 mètres et quelques, qui domine la foule et qui essaye d'organiser, d'improviser une action pour éviter l'arrestation, puisque l'ordre a maintenant été donné de procéder à des arrestations et une vérification des identités de tous les Tunisiens qui se trouvent dans le square.
Nous, ça fait 4 jours qu'on est là, et on est là pour essayer de trouver une solution, que ce soit l'ouverture d'un gymnase, l'ouverture de biens mal acquis, ou mettre des tentes peut-être devant la Concorde, à l'Assemblée, au bord de la Seine, pour essayer de protéger, avec ce fleuve, protéger ces gens d'une intervention policière. Mais nous, ce qu'on leur conseille depuis maintenant 3-4 jours pour éviter les rafles, c'est de se disperser le plus rapidement possible après la distribution de nourriture. Sachant qu'en plus, il y a des flics qui sont au métro, et qui attrape au fil de l'eau tous les Tunisiens qui s'en vont, quoi. Ce qui me rend dingue, c'est qu'en Tunisie, ils sont capables d'accueillir 300 000 Libyens alors qu'ils sont 6 millions d'habitants, et que nous, on est dans une Europe qui a 440 millions d'habitants, qu'on est incapable d'accueillir 20 000 mecs en galère qui fuient une misère hallucinante. Mais au final, voilà, c'est un état du monde et un état... Ça va craquer, c'est pas possible, ça va pas tenir. Quand je vois Claude Guéant, toutes ces déclarations qu'ils font, et une Marine Le Pen à 25%, et c'est à l'image du reste, quoi. Enfin, quand on voit que les ouvriers votent Sarko, on se dit, mais merde, quoi, à un moment, ça donne la rage à fond, mais ça veut dire qu'il faut aussi que les gens se mobilisent. Là, on est un peu nombreux ce soir, mais depuis 4 jours, on est personne, tu l'as vu, quoi, on est... Il n'y a personne.
Bon, là, clairement, ça s'agit, il y a les flics qui rentrent de partout. Là, ils commencent à tous se faire rafler.
على طول شو المتوارد راسنا غادي المتوارد كل هذا لا
Ça court, ils sont partis derrière. Alors il y a les flics qui courent en même temps sur la voie ferrée à ma droite. Et là, c'est là-bas, sous le pont. Apparemment, il y a des arrestations. Alors, on va voir ça.
Il y a les tolérances, mais il y a du tout.
Non, pour l'instant, on ne bouge pas d'ici. On attend, là, il y a des flics partout, vous ne pouvez pas sortir. Il y en a partout.
Sauf si on fait une marche.
Mais non, non, j'essaye d'obtenir du préfet une voie libre. Il me dit, c'est pas impossible. Il me dit que c'est pas impossible.
Stalingrad, à côté de Jaurès,
il y a la police, il y a la police.
Solange, l'association SOS Soutien sans papier, mais ça fait... de longues décennies que je suis sur le terrain de lutte. Ils sont là, ils sont l'enjeu de qui, de quoi, hein ? Ils sont l'enjeu de la montée du populisme, de Sarkozy qui tente de se faire élire par tous moyens, sauf que là, ce sont des hommes. C'est même plus la patate chaude qu'on se renvoie dans l'espace de Schengen, c'est bien pire. Ils sont otages. Simplement, maintenant, la société civile doit se lever et dire basta à leur forteresse, parce que c'est nous qui les externalisons plus loin, dans les camps de Libye. Il y a plus de 300 000 réfugiés en Tunisie. Nous, on en a 20 000 et on fait quoi ? Nom de Dieu ! Et notre gouvernement ose dire, ouais, ils ont qu'à aller faire la révolution dans leur pays, alors que Madame Alliot-Marie les prenne chez elle. Mais maintenant, si la société civile arrive à être très très nombreuse, et si on arrive à dire que, bah ouais, nous on ne soutient pas la dictature de Ben Ali, eux sont les dommages collatéraux de la dictature de Ben Ali que nous avons soutenue, assis, reçus avec le tapis rouge. Donc ce sursaut, c'est Paris debout, réveille-toi.
ما نحبكش تفهمني بالمقلوب مانيش جاي باش نقول يا خالد يا مخلوب بالعكس حبك تقف للشعب وتعاونهم وتقضي على الفساد في البلاد وتحقوهم سيدي الرايس ما نحبكش تفهمني بالمقلوب مانيش جاي باش نقول يا خالد يا مخلوب بالعكس حبك تقف للشعب وتعاونهم وتقضي على الفساد في البلاد وتحقوهم سيدي الرايس ما نحبكش تفهمني بالمقلوب مانيش جاي باش نقول يا خالد يا مخلوب بالعكس حبك تقف للشعب وتعاونهم تقضي على الفساد في البلاد وتعاقبهم
Voilà qui se souvient de l'enthousiasme des médias, de certains médias et de beaucoup de journalistes pour la merveilleuse révolution tunisienne. Souvenez-vous, quand Tunis ressemblait au Festival de Cannes, eh bien là, cette page est tournée, et les Tunisiens qui ont cru vraiment qu'ils allaient être reçus à bras ouverts en France sont bien déçus. C'était donc un reportage de Keller van Wimmersch. Élève étudiant de l'école supérieure de journalisme de Lille, où nous avons avec Antoine Chao dirigé cet atelier de gros reportages, de documentaires, de radiophoniques. Un autre reportage d'une étudiante, Sarah Lefebvre, sur ceux qu'on appelle, non sans un certain mépris, les punks à chiens.
Bonsoir madame. Vous avez peut-être un petit peu de monnaie à dépanner, s'il vous plaît.
Ce
peu sympathique.
On les appelle punk à chien. Un reportage de Sarah Lefebvre.
Punk à chien. Moi je dirais plus les zonards à chien que les punk à chien, quoi. Bah, ça fait plus 2011, quoi. Les punks, c'était dans les années 60-70, quoi. Bonsoir, madame. Vous avez peut-être un petit peu de monnaie à dépanner, s'il vous plaît. Vraiment pas facile, quoi. Au début, pour se lancer, c'est atroce, quoi. Je pensais pas qu'un jour je ferais la manche, d'ailleurs. Maintenant, bon, je suis habitué, mais je pensais pas que je ferais la manche un jour. Alors, on est place Philippe Lebon, devant le 8 à 8. Bonsoir, madame. Bonne soirée.
Bonsoir. Merci.
Je m'appelle Gérald, j'ai 31 ans. Je fais la manche depuis 2 ans. Enfin, c'est la merde, quoi. Parce que je suis dehors. Voilà.
Tu faisais quoi avant? Comment ça t'est arrivé de te retrouver à la rue?
Bien longtemps avant, je faisais routier, en fait. Donc, je conduisais des camions. Un jour, on m'a retiré le permis. Après, je me suis séparé de ma copine, puis on a un enfant ensemble, donc elle l'a gardé. Et après, j'ai commencé un peu à partir en latte aussi, j'ai fait un peu de prison, j'ai pris un peu de drogue. Je partais partout en France, et puis voilà. Je me suis retrouvé à la rue, je vivais à droite à gauche, quoi.
Et ton enfant, il a quel âge maintenant ?
6 ans.
Tu l'as revu récemment ?
Ouais, je l'ai vu au mois de décembre. Parce que je m'entends bien avec sa mère encore. Je vais là-bas, je peux le voir, je peux faire ce que je veux. Mais limite, je préfère qu'il me voie pas. Parce que là, me voir faire la manche ou des trucs comme ça, c'est bidon, quoi. Eux, il le sait que je vis dehors quand même, quoi. L'année dernière, j'avais une caravane. Il est venu avec moi. J'étais resté là-bas quelques temps. Il aimait ça. C'était l'été. C'était marrant, mais bon. C'est pas une vie pour un gamin, quoi. Le temps, quoi. Bonsoir, madame. Vous avez peut-être un petit peu de monnaie.
Elle t'a pas regardé?
Ouais, non. Il y en a plein qui font comme si j'étais pas là, quoi. C'est pas grave. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Hein. Bonsoir. Ça, c'est un monsieur qui me donne à chaque fois qu'il me voit. Quoi. Tous les jours, il passe. Il me donnera maximum 1 euro, quoi. Tout le temps. C'est un des seuls, quoi. Je croyais qu'il doit y avoir 2 personnes qui me font ça, quoi. Qui me donnent tout le temps.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Je fais un reportage sur Gérald et il me disait que vous donniez tous les jours.
Oui. Oui.
Pourquoi vous donnez tous les jours?
Je sais pas, parce que déjà, il est souriant. C'est pas toujours facile dans ces conditions d'être souriant. Et puis, on le sent dans ses yeux qu'il n'y a pas le bonheur que tout le monde a le droit d'avoir. Bah, tant que moi, je peux me faire des petits plaisirs, il n'y a pas de raison. Voilà. Si je me retrouvais à sa place, et on sait qu'on peut s'y retrouver très vite, ça me ferait plaisir de voir des gens comme moi, donc voilà.
19h, comme tous les jours, Gérald s'en va et laisse la place à Cécile.
Salut.
Couche-toi.
Viens là, Mani. Attends.
Tout à l'heure. Allez, couche-toi, toi, c'est bon, Mani. Ouais, ouais.
Dès qu'il y a un chien, je suis obligée de le tenir, sinon il est trop heureux.
Bon, Sam.
Je m'appelle Cécile. C'était l'été dernier, donc ça va faire 1 an que je fais la manche parce que j'en ai besoin. J'ai 21.
Allez, tous, couche. Allez.
J'adore les animaux, j'adore manger. Ah, je sais qu'il y a eu beaucoup de moments où si j'avais pas eu mon chien, ça aurait été dur. C'était de la compagnie tout le temps, quoi qu'il arrive. 2-3 fois aussi où j'ai chauffé, c'est heureusement que j'avais mon chien. Mais pareil, il me protège bien. C'est mon gros loulou, puis voilà.
Vous avez peut-être 20 ou 50 centimes.
Voilà. Gentil, merci beaucoup.
T'as quoi dans la main, Cécile?
Bah, c'est une totote. Une totote pour bébé, en fait. Je les ai eues petites et ma mère a tout essayé pour me les enlever. Elle me les a coupées, mis à la poubelle. Elle m'avait même mis du vernis qu'on met sur les doigts pour pas se ronger les ongles. Une fois, quand mon frère a eu son accident, le service où il était, il proposait un psychologue pour parler et tout ça. Et moi, je voulais vraiment pas y aller. J'étais super réticente au début, quoi. Et ma mère, elle avait insisté et puis... Bonsoir. Et puis à la fin, je lui ai demandé en fait, j'ai une question, j'ai des tototes depuis petite et il m'a dit écoutez, ça doit venir d'un manque affectif paternelle. Enfin, il m'a dit par rapport à un des deux parents, c'est pas ma mère, quoi. Du coup, c'était un manque affectif à cause de mon père. Tu bouges pas, Athos. Pose ta tête tout de suite. Chaque fois qu'on se parlait, on s'insultait en même temps. C'était pas un père, quoi. Même pour mes frères, hein. C'était pas. Il jouait pas le rôle de père.
Ta mère, comment ça se passe avec elle?
On s'appelle souvent, genre, dès que j'envoie un message ou quoi, ou même quand elle a envie, elle m'appelle le soir.
Mais s'inquiète pas pour toi, elle?
Ah bah si, ouais. Si, si. Au début, j'ai raconté un peu quand je suis arrivée, la manche, ça machin, et elle s'en faisait tellement incendant qu'elle se bouffait les doigts jusqu'à l'os que si c'est passé un truc que je sais que ça va l'angoisser ou l'inquiéter ou lui faire un peu de mal, bah je lui dis pas quoi. Pas lui faire de mal.
Bonsoir, bonne soirée. Merci beaucoup.
Lui, j'ai l'impression à chaque fois qu'il me caresse la main quand il me donne une pièce.
Je regardais, t'as combien de piercings là sur le visage?
Là encore, en plus j'en ai enlevé. Mais j'en ai un à la joue, un là en dessous de la lèvre. J'en avais un avant à l'arcade au milieu là. Je voulais pas un comme tout le monde là, ça m'énervait. Du coup, je l'avais fait vraiment bien au milieu du sourcil. Toutes mes oreilles, je les ai fait toutes seules. Là, j'en avais fait un toute seule. J'avais pris comme ça avec un cathéter, j'avais percé dans le cou. C'est au niveau de la pomme d'Adam que je n'ai pas, mais au niveau de là. J'en ai eu un là sur le bras aussi. Juste en dessous le poignet, en fait, que j'ai fait aussi toute seule en surface, comme ça. Sinon, j'ai deux tatouages aussi. J'en ai un sur l'avant-bras, fait un peu artisanalement, on va dire. C'était un jour, comment on va dire, de folie. On avait fait un pari tout con, à la con, hein, vraiment. On avait un ami qui travaillait, je sais plus dans quelle entreprise à ce moment-là. Ils avaient des nouveaux cutters en plastique, en fait, avec des petits bitonniers pour appuyer qui faisaient sortir un petit bout de lame. Puis comme ça, dans la connerie, je sais plus de ce qu'on parlait avant, on s'est dit, oh bah viens, on se fait une croix et tout, le premier qui se fait sa croix. Et en fin de compte, j'ai mis la lame en biais, en fait, sans faire attention. Du coup, bah, j'avais cette vieille cicatrice, et une année, j'ai été dans le sud, et du coup, mon cousin, il a eu ça, oh mais c'est horrible, faut cacher ça. Puis pareil, c'était soirée pastis. Et du coup, bah, hop, il m'avait fait le tatouage là, comme ça, un yin et un yang, juste pour cacher la truc.
Il est quelle heure, là? Il est 20h40.
40, bah là on va se mettre en route pour aller voir Momo.
Coucou.
Ah, c'est Momo, mon copain. La petite évoleuse. Elle est toute pleine de tâches. Voilà, papa, maman et petite fille. Et stop. Athos, eh oh. Allez, viens.
Tâche, reste là.
Ouais, donc tous les soirs on s'arrête là, petit rituel, on compte nos sous et puis hop, on va voir. Il y a des soirs où ça marche vachement bien et des soirs où on fait rien du tout.
Ça fait 18?
Ouais.
Ça va?
Bah non, c'est chiant. Bah la moyenne, moi, ouais. C'est 10 euros de l'heure. Mais bon, nous, on fait un peu plus souvent, quoi.
Parce que ça rapporte, toi, c'est con, mais les gens qui vont être là par terre, tout bourrés et tout, qui vont pas demander et tout, ils vont, de toute façon, eux, c'est pour leur bière, ils vont faire 3 euros, ils vont être super contents, quoi. Nous, c'est pour les croquettes. Moi, la dernière fois, je me suis acheté des collants, j'avais vachement envie de collants, je me suis acheté des collants, c'est pour nous, c'est pour vivre vraiment, quoi. Puis le fait de rester debout, d'être poli, souriant, c'est con à dire, mais ça joue vachement, quoi.
Que des pièces de deux.
Ouais, puis du coup, le fait d'être toujours au même endroit, bah, on a nos habitués, quoi. Moi, je sais que 8 à 8, j'ai vachement de gens qui s'arrêtent. Même. Ouais. J'ai un monsieur que j'appelle monsieur 10 euros. Parce qu'à chaque fois qu'il vient et qu'il ressort, il me donne 10 euros à chaque fois, quoi. 2, 4, 6. Ouais, nickel. 8 et 10, bah, moi j'ai 15. Petit bidou. Ah, encore un bidou.
Et tout de suite, ouais.
Bah là, on va aller vers le camion, de toute façon. Athos, viens ici.
Allez, allez.
Comme ça, un vieux camion. Il est 87, c'est là. Pardon. Il a 2 ans de plus que moi. Contrôle technique, je te parle pas de la longueur de la liste. Tu vois qu'il y a l'espèce de truc bleu, là, publicité, entre les arbres. Bah c'est là. Là devant, sous la place de Momo, parce que c'est moi qui conduis, il a pas le permis. Bah c'est Apache, son surnom. Et puis là, bah Cécile, mon prénom. Et chouette, ce côté-là, elle est bien en couleur. Du orange, du vert. Ils ont vraiment pris tout l'espace, donc c'est génial, quoi. Ça craint un peu plus. Souvent, les gendarmes, quand ils voient un camion comme ça, bah, c'est sûr qu'ils arrêteront plus facilement un camion comme ça qu'un camion tout blanc, tout propre. Mais bon, bah, on est jeunes, hein.
Combien de réparations?
Enfin, la taille de l'impact, toi, ça doit bien faire 50 cm, ça, je pense. Bah, je vais rien payer, parce que heureusement que j'ai l'assurance qui fait bris de glace, donc normalement, je devrais rien avoir à payer. Même pas de franchise, quoi. Du coup, ouais, alors, ouf, quoi. Parce qu'au début, on s'est dit, bah, tant pis, c'est la fin du camion, quoi. Hop. C'est vraiment tout petit, quoi. Il y a une petite cuisine avec des brûleurs, un évier, on a un petit tiroir. Là, c'est un petit frigo. Ça fait un moment qu'il n'est plus en route. Voilà, là, c'est le lit. Bon, pour l'instant, on n'a plus de matelas, mais c'est un lit. Donc voilà, quoi. Je l'ai acheté l'année dernière, je l'ai payé 1000 euros, le 6 juin de l'année dernière. C'est le premier camion que j'ai à mon nom, à moi.
C'est un peu comme un rêve, en fait, ce petit camion-là. Vous allez le retaper tous les deux.
Ouais, voilà. Bah, ouais. De toute façon, même depuis que j'ai commencé à connaître ce milieu-là, même à sortir, ça m'a toujours attiré le fait de pouvoir avoir un chez-soi et de se déplacer avec comme un appartement à rouler.
Et avant tout ça, t'as eu une enfance comment ?
Oh, j'étais bien. J'avais deux frères, deux grands frères. J'étais la plus petite. Et mes frères, ils ont toujours été gentils avec moi. Ma mère a tout fait, tout le temps, toute gentille, tout le temps à nous faire des attentions, des trucs comme ça, alors que c'était pas facile. Enfin, je m'en suis rendu compte à un certain âge, mais on vivait correctement, mais bon, sans plus, quoi. Il y avait des fins de mois où c'était difficile, comme beaucoup, beaucoup de gens en France, quoi. Et voilà, mais bon, ils ont quand même toujours fait tout ce qu'ils pouvaient pour que nous, on soit bien. Hein, j'ai eu l'enfance, bien, quoi. Juste mon père, il buvait un peu, du coup, des fois, c'était pas drôle tout le temps, mais bon, c'était pas...
Et tu parlais de tous les problèmes qui te sont arrivés en même temps. C'était quoi ces problèmes-là ?
Bah, j'ai eu le décès de mon père. Je me suis vachement renfermée sur ça. J'ai eu des problèmes à l'école. J'ai eu des problèmes avec la justice parce que j'avais des mauvaises fréquentations. J'ai tapé sur une fille. Ça m'a fait des problèmes en justice. Enfin, j'ai eu ça. Après, j'ai eu le décès de ma grand-mère, accident de mon frère, accident de moto. Et maintenant il est handicapé, ça fait 2 ans. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs qui me sont arrivés. Ça faisait trop en fait, tout simplement. J'ai eu besoin de partir. J'ai commencé quelque chose que j'aurais pas dû commencer. Et maintenant, c'est assez dur d'arrêter. Du coup,
Et ça fait combien de temps du coup que t'en prends ?
Ça va faire bien 3 ans maintenant. Non, pas 3 ans quand même, mais. Que je suis vraiment accro, on va dire, à ça, ça va faire 1 an. C'est dur de s'en sortir, quoi. C'est pour ça, là, je vais prendre un traitement et puis bouger d'ici, reprendre la route. Je pense que ça m'aidera à m'arrêter, quoi. Fin mai, j'espère qu'on sera parti, quoi. C'est un bouquin qui vient d'un ami à moi qui avait cette vie-là, d'être en camion, de faire des teufs, de pas forcément travailler. Et maintenant, il a un magasin à lui. Il parle de rêveurs londoniens. Comment ils ont pris la route et comment ça a commencé. Octobre 90. Des camions, des voitures, des bus, des poids lourds et plein de sons partout. Merci l'Angleterre, merci Thatcher et surtout merci les spirales. Sans vous, rien ne serait arrivé. Disent merci l'Angleterre, merci Thatcher, parce que Thatcher, c'est... Elle a voulu interdire ça, en fait. Interdiction d'une réunion de plus de je sais plus combien de personnes autour d'une même musique répétitive. Donc une teuf, quoi. Les Spirales, c'est un des groupes vraiment fondateurs de ce milieu-là, de ce mouvement-là. Le fait qu'elle leur dise merde, ça a été le point de départ pour qu'ils viennent faire ça ici et partout ailleurs, quoi. Moi, je sais que je suis en camion, j'écoute du rap, j'aime bien la musique classique. Rien de si différent, à part que moi, mon appart, il bouge, quoi, c'est tout. Je vois pas pourquoi, on me considérait comme une autre, quoi.
Voilà, après le reportage de Sarah Lefebvre de l'École supérieure de journalisme de Lille, là-bas j'y suis, continue de faire des petits avec ses étudiants. Et voici le reportage de Baptiste Lamps sur les supporters, sur un supporter de Lens.
Lens, dans cette ancienne cité minière, 36 000 habitants, dans son stade, 41 000 places. C'est là, dans cette enceinte, que toute une région marquée par la fin de l'industrie minière se retrouve, pour supporter et célébrer plus qu'un club, des valeurs, ses valeurs. Michel a 42 ans, il habite à quelques centaines de mètres du stade Félix Bollaert. Ce Lensois s'y rend depuis tout petit, c'est presque devenu sa deuxième maison, à l'image de tout un peuple qui vit en sang et or. Lens, une terre de supporters, un reportage de Baptiste Lamps. Michel, on est au pied des marches, c'est votre tribune, hein, celle du stade Bollaert, la tribune Tranin, ça fait des années que vous y êtes.
Ouais, ça fait 35 ans, 36 ans même cette année, et puis ben, toujours à la même tribune et quasiment toujours à la même place.
Vous êtes dans quel état d'esprit là, quand on est jour de match, c'est les marches juste avant de rentrer dans le stade?
Ben, comme tout supporter, le stress, et puis ben, du stress et de la joie, parce que le stade Bollaert, ben, c'est le, enfin, l'un des plus beaux et des plus grands stades de France, quoi, avec là, une ferveur inégalable.
C'est l'ambiance lensoise que l'on aime, l'ambiance lensoise retrouvée ce soir avec, avec ce cop qui chante et qui encourage.
Bon, là vous êtes déjà en tenue, hein, vous avez le maillot de Lens, vous avez le short, vous avez la veste, mais je suppose que quand c'est genre de match, c'est encore autre chose.
Ah bah il y a les écharpes qui viennent s'ajouter, il y a le drapeau qui fait une douzaine de mètres carrés de tissu, donc c'est déjà impressionnant. Ouais, il manque les écharpes et puis le drapeau et puis voilà quoi.
35 ans de fidélité, je suppose qu'il y a un tas de souvenirs dans ce stade.
Ouais, je me souviens, ça peut paraître, enfin on pourrait en rire maintenant, mais bon à l'époque, mon père n'en a pas rigolé, c'était un match de barrage, je devais avoir 12-13 ans, début des années 80, et puis bah, durant ce match intense, aller-retour, il y a eu les prolongations et puis les tirs au but, et c'était trop pour moi. J'ai bah, le cerveau tout a lâché, mais je suis réellement tombé en syncope quoi. Donc les copains de mon père ont dit « Mais ton fils, il dort ». Alors mon père qui dit « Mon fils qui dort un jour de match, il ne faut peut-être pas exagérer ». Et puis, ils ont mis du temps à réaliser, quoi. Bon, là, je vous le raconte parce qu'on me l'a raconté, mais moi, j'étais vraiment dans le coltard, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ils m'ont filé quelques paires de claques et je suis revenu à moi-même et j'ai vu le dernier pénalty bah, qui nous a sauvés en Ligue 1, quoi. Par contre, il y a des souvenirs un peu plus joyeux, comme... L'année où on a été champion de France, parce que bon, voilà, on est dans une triste situation actuellement, mais il ne faut pas oublier le bien qu'il y a eu avant. Donc ça, ça ne s'oublie pas. Voilà, c'est quelques petites anecdotes qui relatent un peu ma vie de supporter.
Allez, les sang et or, vous êtes les plus forts. Allez, lance!
Bon, là, on est dans la voiture, forcément, tout de rouge et jaune. On s'étonne même que le capot soit pas en rouge et jaune. Hein. On a le pare-soleil, on a les petites vignettes, on a l'écharpe, on a les coussins, on a vraiment tout rouge et jaune. Et puis, on a au niveau de la radio, on a les chants des supporters en soi. C'est quelque chose que vous mettez assez souvent?
Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je peux pas... Voilà, quoi. Dans les beaux comme dans les mauvais moments... Moi, je suis habillé 365 jours par an avec mes couleurs. D'abord, ce que je dis aux copains, quand ils me disent « Mais arrête de porter ces couleurs-là, t'es encore fier de les porter. Ben, » je dis « Oui, de toute façon, je peux pas faire autrement. Si je voudrais pas m'habiller aux couleurs de Lensois, ben, je serais nu. » Voilà, parce que j'ai que ça pour m'habiller. Donc, voilà, quoi. Et puis, ben, il faut toujours que partout où je vais, j'ai mes couleurs. Bon, je suis toujours en situation RC Lens, RC Lens, RC Lens. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas... même à mon mariage, il y a 6 ans que je suis marié, j'ai failli me marier avec la chemise RC Lens. Et je me suis rétracté au dernier moment parce que je me suis dit quand même, c'est le plus beau jour de sa vie, un mariage. Enfin,
avant le stade Bollaert, plus beau jour de sa vie, le mariage?
Égalité, on va dire. Égalité. De toute façon, quand j'ai connu ma femme, j'ai dit, tu vois, je suis un très grand passionné. Tu me prends avec ma passion ou alors on reste bons amis parce que je peux pas me défaire de ma passion, c'est pas possible. C'est pas possible.
Et lui, il vous a emmené votre père, maintenant il s'est rempli au stade, il vous a laissé seul comme un grand.
Bah oui, puis bon, il a vécu un match où... le cœur s'est emballé et puis ben il a là il s'est dit oula c'est un avertissement. Il dit je pense que là stop. Ça a été la décision radicale pour dire de malheureusement de ne plus se rendre au stade quoi.
Est-ce que vous, vous disiez tout à l'heure, vous avez déjà fait une syncope, est-ce que si, pareil, vous aviez un souci de santé, un problème cardiaque dû au trop plein d'émotions, est-ce que vous feriez aussi l'impasse sur le stade Bollaert?
Question difficile. Vraiment, si, si les médecins me diraient, écoutez, c'est une question de vie ou de mort, vraiment, au dernier ressort, oui. Mais il faut vraiment être à deux doigts de la mort, quoi, parce que... D'abord, j'ai même dit, le jour où je meurs, je veux que mes cendres elles soient réparties dans les travées du stade Bollaert. Comme bon nombre de supporters lensois, d'ailleurs.
C'est pas fini avec Corridon, le pressing sur Helbecq. Voilà ce qu'il faut faire, il faut continuer. Boutaka continue.
Oui,
et c'est le but. Et c'est le but de la délivrance pour John Boutaka et le Racing Club de Lens qui mène maintenant sur le score de 2-1 grâce à ce pressing qu'on recherchait depuis les...
On est dans la salle à manger, on est arrivé chez vous. Panier à lessive, et là, bah, c'est aux couleurs, d'ailleurs, le panier.
Intégralement, quasiment. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, des shorts, le grand drapeau qui est là, qui est dessous, qui fait une douzaine de mètres carrés de tissu. Et puis ben voilà, quoi, partout où on est, il y a des couleurs sans rayures. Là, il y a un bouquet de fleurs que j'ai. Bon, il commence à dater, mais bon, on reconnaît encore les couleurs sans rayures. Par là, j'ai aussi. Ici, la pièce, c'est la place des sans rayures. Il y a la plaque là-bas. Il y a là-bas le porte-crayon à l'effigie du maillot du RC Lens. Il y a toujours quelque chose qui rappelle qu'ici, bah, on est dans une maison en soi. Quoi. Et on n'est pas encore monté dans la chambre parce que le plus beau reste à venir.
On y va.
Allez, on est parti. Voilà, donc là, c'est bienvenue dans mon temple. Voilà, c'est mon monde du football.
Vous, on l'a compris, hein, 100% fan, mais votre femme, bon, elle est bien obligée de vivre football. Mmh. Et on le voit aussi ici, elle dort football parce que là, c'est couette sans et or, c'est petit nounours sur le lit sans et or, c'est oreiller sans et or, c'est la totale. Elle a eu son mot à dire?
Ben oui, elle a eu son mot à dire. Quand on s'est connus, on ne sait plus, bien sûr. Et puis je lui ai dit, on s'aime, d'accord. Mais tu aimes moi, mais tu vas aimer ma passion. Elle a mis un peu de temps quand même.
On se tourne un petit peu sur la droite. On a eu le mur, maintenant on est face au lit. Là encore, mais forcément, c'est du rouge et jaune.
Ben c'est 100% en soi. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, je peux pas... Je me tourne à gauche, j'ai Lens. En face, j'ai Lens. Partout où je me tourne, il faut qu'il y a du rouge et du jaune, voilà.
Ça vous fait rien que, mais vous, quelque part, vous êtes venu au stade grâce à votre père dès 7 ans, et que derrière, bah, vous, vos enfants ne suivent pas, et que peut-être dans la famille, ça va s'arrêter?
Ben, ouais, si, c'est un pincement au cœur quand même, parce que, bon, forcément, j'aurais bien aimé qu'il y avait la relève derrière, quoi. Mais bon, on peut pas le... Mais j'ai des neveux et nièces, donc de ce côté-là, ça va, ça a l'air de prendre un peu. Donc, et puis là, ben, je viens d'être parrain tout récemment, il y a un an et demi. Et puis, et bizarrement, son papa est supporter de Boulogne-sur-Mer. Et on lui a mis l'autre fois les deux couleurs devant lui, les couleurs de Boulogne et les couleurs de Lens. Et il a flashé sur les couleurs de Lens. Donc j'ai dit au père, ben, regarde, tu vois, c'est les plus belles couleurs du monde. C'était mon enfance et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents. Ma mère avait les cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Au nord, c'était... La terre, c'était le...
Pourquoi ?
Oh, l'émotion, elle est trop. Et à chaque fois, c'est pareil.
Vous ne chantez jamais jusqu'à la fin ?
Non. C'est pour ça qu'au stade, on fait... Comment dirais-je ? On fait que un ou deux couplets parce que... On peut plus, quoi. Je veux dire, l'émotion, elle est... Je pense au grand-père qui est décédé malheureusement à l'âge de 30 ans. Donc on n'arrive pas à aller trop. Puis les 40 000, parmi les 40 000 anciens, il y en a beaucoup dont les parents ont été... les accidents du fond du trou, comme le dit la chanson. Donc on ne peut plus... On peut plus, on peut pas aller jusqu'au bout, c'est pas possible. Enfin, moi personnellement, je pense pas être le seul à jamais été jusqu'au bout. Jamais, moi personnellement, jamais j'ai pu aller jusqu'au bout de la chanson. Ça a été... C'est trop dur. Désolé.
C'était Lens, une terre de supporters. Un reportage de Baptiste Lamps, étudiant à l'École supérieure de journalisme de Lille.
Et voilà, c'était la baffe fête des petits avec les étudiants, vous l'avez entendu, de l'École supérieure de journalisme de Lille. Merci à tous les trois, Gaylor Van Wimersch, Sarah Lefebvre et Baptiste Lamps. Merci à Antoine Chao et à tous les autres étudiants de ce stage. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez et vous devez la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Fabien Laléouze, Coy Nguyen et Franck Aderer et Antoine Chao ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebot et Marine Atelier. J'attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Oh dis donc, t'as une petite mine.
C'est mon divorce. Déjà qu'entre mon ex-mari et mon ex-situation familiale, c'est compliqué. Alors avec une double déclaration de revenus à faire, je gère plus rien.
Pour ton ex-histoire d'amour, je sais pas, mais pour le reste, le plus simple, c'est encore Internet. Tu peux faire tes deux déclarations sans te déplacer.
Extra !
Mariage, PACS, divorce, décès d'un proche, changement de revenus. Déclarez sur impots.gouv.fr, même lorsque votre situation a changé. La télédéclaration, pensez-y, ça vous simplifie la vie.
Excellent.
Ceci est un message du ministère chargé du budget.
On fait quoi?
Ça dépend, c'est combien le montant du super loto du vendredi 13?
13 millions d'euros.
Et il y en a 15 cette année.
Un quoi?
Un vendredi 13.
Oh, il tombe quand?
Montant à partager entre les gagnants du premier rang.
Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
SOS Japon.
Les artistes, amis du Japon, se mobilisent pour la Croix-Rouge japonaise.
Le mardi 31 mai, mes amis artistes seront sur la scène du Théâtre du Châtelet et en direct sur France Inter pour donner leurs chansons, leur musique et leurs poèmes. Nous espérons vos dons pour aider le Japon.
Réservation au Théâtre du Châtelet et renseignements sur franceinter.com. Pour vos dons, sosjapon.net.
Mardi 31 mai, à 20h sur France Inter et en direct du Châtelet, une affiche artistique exceptionnelle se réunit pour le Japon.
Et lundi, on continue nous, notre voyage au Japon. Là-bas, si j'y suis, sera à Hiroshima lundi et demain soir au Glières. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut.
La CRIRAD avait promis qu'elle serait vigilante sur les possibles retombées en France de la masse d'air radioactive en provenance du Japon. La radioactivité mesurée était faible fin mars, elle est désormais négligeable. C'est ce qu'annonce donc la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. L'iode 131 dans les sols va disparaître dans les prochains jours, selon son président Roland Desbordes, qui appelle cependant les autorités françaises à revoir le calcul de certaines de leurs mesures. L'IRSN avait publié des résultats sur l'iode radioactif sous forme de poussière, dit-il, mais pas sous forme de gaz, alors que celui de Fukushima était principalement sous cette forme. L'Internet et ses dangers. Une adolescente de 16 ans et deux de ses complices, des garçons âgés de 16 et 18 ans, ont été interpellés cette semaine à Paris et en Seine-Saint-Denis. La jeune fille aurait servi d'appât via le site Facebook pour attirer dans ses filets un garçon de 17 ans. Il a vécu une nuit de violence et d'humiliation dans un parc parisien avant d'être retrouvé en état de choc, vêtu d'un simple jean dans une rue. C'était le 4 mai dernier. L'enquête a permis ses interpellations. Les auditions montrent qu'il s'agit de violences purement gratuites. Le trio va être poursuivi pour violences en réunion avec préméditation. Sans surprise, l'ex-responsable de la sécurité chez Renault, Dominique Gévray, a été licencié pour faute grave. Il est actuellement mis en examen et écroué dans l'affaire de pseudo-espionnage qui a secoué le constructeur automobile. C'est lui qui avait mené l'enquête interne contre trois cadres faussement accusés. Il n'avait jamais voulu dévoiler l'identité de son informateur et la police aurait retrouvé sur son compte les sommes versées par Renault en contrepartie de ces informations. Au procès d'Yvan Colonna, la défense du berger corse a une nouvelle fois demandé aujourd'hui une reconstitution de l'assassinat du préfet Claude Erignac. Reconstitution indispensable à la manifestation de la vérité, ont redit ses avocats. Elle n'a jamais eu lieu. Bruxelles doute de la bonne foi du Danemark. Les Danois ont décidé, vous le savez, de renforcer leur contrôle aux frontières en réinstallant notamment des locaux sur la ligne frontalière. Ils affirment que cela se fait dans le respect de la Convention de Schengen. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, met en doute la légalité de cette décision. Il menace Copenhague d'une procédure d'infraction. Et en matière de politique d'immigration, la France est un mauvais élève, selon le dernier rapport d'Amnesty International. L'organisation épingle les autorités françaises sur leur politique à l'encontre des migrants tunisiens, des réfugiés, des demandeurs d'asile et des Roms. Sur le front économique, en revanche, la France se distingue positivement. Au premier trimestre, la croissance a augmenté d'un point. C'est plus que prévu, en raison notamment des investissements des entreprises, mais aussi de la consommation en hausse des ménages. Enfin, prenez vos précautions si vous circulez sur le RER A ou B en banlieue parisienne. Ce vendredi, les lignes sont toujours perturbées par un mouvement de grève. La situation devrait redevenir normale demain matin.
Liaisons heureuses, Colombe Schneck.
Ce samedi sur France Inter, en partenariat avec le Monde des Livres. Vianne Forester pour son journal de la rue de Rivoli chez Gallimard.
Ce que j'aime aussi dans cette œuvre, c'est de faire exister les moments de bonheur aussi forts que les moments de malheur.
Et Chantal Thomas pour Café de la mémoire au Seuil.
Ces livres sont de ces livres dont on sort changé.
Les Liaisons heureuses, demain à partir de 15h.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h04, l'après-midi continue en musique avec Frédéric Lodéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Est-ce que la musique est marquée par son pays d'origine ou par le pays où l'auteur s'est installé? C'est à vous de le dire. En tout cas, par exemple, le 12e quatuor américain de Dvorak, qui a été composé lors du séjour de ce beau compositeur dans le Nouveau Monde. Il était à Spilville, en fait un village tchèque situé, raconte-t-il, à 1200 miles de New York. Dvorak nous dit « Je voulais pour une fois écrire quelque chose de très mélodieux, de très simple. Alors je voyais toujours devant moi Papa Haydn, donc le bon Joseph Haydn. C'est pour ça que ça aboutit si simplement. Alors qu'est-ce qu'il y a d'américain là-dedans, alors qu'il se réfère à un compositeur autrichien? Et bah, on peut quand même dire qu'il a entendu de la musique des Indiens et des Noirs d'Amérique, et aussi quelques chants d'oiseaux qui nous donnaient des idées. Bon, américain, certes, il était là-bas sur ce beau sol, mais enfin il est resté toute sa vie très tchèque. Vivace Manon Tropo. Thank you.